Et là, ce que je vais vous faire, une petite méditation, un peu forme pensée du jour. Je sais pas, j'ai écrit pendant quelques années dans la pensée du jour. Après, on m'a remercié cette année. Bon, mais j'avais déjà prévu des pensées. Alors j'ai dit, je vais les recycler. Et puis je vais la lire pour, puisqu'on est invité chez vous. Et puis voilà, je l'ai un petit peu modifié. Et puis ça sera une pensée du jour pour commencer. Et puis Jean-François complétera sur le thème qu'on lui a donné. Voilà. Alors, mon titre, ça s'appelle « Prendre les armes après les larmes ». Alors, « Prendre les armes ». Alors bon, bien que beaucoup pensent que les pleurs soient un signe de faiblesse, les psychologues ont mis en évidence que les larmes possèdent de nombreux avantages pour la santé mentale et même physique. Le poète latin du début de notre ère, Ovide, écrivait déjà « C'est un soulagement de pleurer, les peines sont libérées et emportées par les larmes ». Nous avons cette capacité en tant qu'être humain de pleurer pour laisser cours à nos émotions. Alors, il semblerait que les animaux n'ont pas cette capacité. Bon, c'est à discuter, mais les animaux n'auraient pas les bases neuro-anatomiques et les facultés mentales permettant de donner aux larmes une connotation émotionnelle. Bon, c'est encore à confirmer, mais c'est ce que j'ai lu. Alors, puisque nous avons ce privilège, profitons-en. Mais que ces larmes ne nous conduisent pas au repli sur soi et à l'inaction. Je pense à un être cher miné par la dépression et l'amertume à cause de la maladie grave qui l'affectait. Il a eu la chance de bénéficier d'un nouveau protocole de soins dont les médicaments extrêmement onéreux venaient des États-Unis. Mais il lui fallait arrêter de fumer. Ses larmes sont restées stériles. Il n'a pas pris les armes pour combattre son addiction au tabac et il est décédé. Quelle tristesse! Quand Néhémie, alors en exil à Babylone, apprend que les murailles de Jérusalem sont en ruine, il est dit « Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. » Néhémie 1:4. Mais Néhémie ne sombre pas dans le désespoir. Après avoir confessé le péché de son peuple, il rappelle à Dieu ses promesses. Puis il se lève pour agir. Il exprime à l'empereur son désir de partir en expédition pour rebâtir la ville de ses ancêtres. Et la faveur de Dieu et le succès l'accompagnent. Nous voyons Jésus lui-même pleurer en certaines circonstances, comme lorsqu'il apprend que son ami Lazare est mort. Jésus pleura, Jean 11:35. Ou encore lors de son entrée à Jérusalem. Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle. Luc 19:41. Mais surtout, on le voit pleurer à Gethsémané. Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Hébreux 5:7. Cependant, Jésus, lui non plus, n'est pas resté en panne dans sa tristesse, ses déceptions ou ses angoisses. Après avoir versé des larmes, il a pris les armes, d'une façon figurative, bien sûr. Il a retrouvé la force, la volonté d'aller de l'avant et d'accomplir la tâche que Dieu lui demandait. Il a ressuscité Lazare, chasser les marchands du temple et offert sa vie en sacrifice pour notre salut. Ce sont les trois choses qu'il a faites après avoir pleuré. Fut une époque où j'ai versé toutes les larmes de mon corps devant l'indifférence de mes enfants face à la foi. En tant que parent, la seule chose qui nous importait vraiment, ce n'était pas qu'ils aient une éducation poussée ou une place de choix dans la société, c'était surtout de voir chacun d'entre eux accepter Jésus et lui consacrer sa vie. Une fois cette étape passée, nous savions qu'ils feraient les bons choix et que Dieu les conduirait vers l'avenir fait d'espérance, études, carrière, choix du conjoint qu'il leur avait préparé de toute éternité. J'ai donc beaucoup pleuré, mais je ne suis pas restée en panne dans mon chagrin. J'ai relevé la tête et j'ai mis la main à la pâte pour transformer ma vallée des larmes en oasis, selon l'expression utilisée dans le psaume 84, verset 7. Lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. Cette tâche n'a pu être accomplie qu'en collaboration avec le Saint-Esprit et ses fraîches ondées. Il est bien dit que c'est eux qui transforment le désert en oasis. Ce n'est pas Dieu qui le transforme, c'est eux, mais qu'ensuite il y a la pluie qui vient par-dessus. Et ça, ça vient de Dieu. Il a fallu s'engager dans un combat spirituel qui a commencé bien sûr dans la prière et nous a conduit à prendre des décisions et à poser des actes. C'est ainsi que nous avons embarqué nos ados dans un voyage missionnaire en Roumanie qui a marqué un tournant crucial dans leur vie. Puis nous nous sommes renseignés sur des écoles de disciples et Dieu a ouvert des portes en Angleterre et aux États-Unis. Et quand ils en sont revenus, ils n'étaient plus les mêmes. Et comme je l'ai écrit ailleurs, les combats que vous menez à genoux dans votre chambre ne sont pas vains. Dieu envoie son esprit, il délègue ses anges, il arrange les circonstances, vous délivre des oppresseurs et tire vos bien-aimés dans son royaume avec des cordages d'amour. Bientôt retentiront les cris de joie. Et personnellement, ma joie a été rendue parfaite, complète, comme le verset de ce matin, quand Nathanaël, Laetitia, Timothée, Aimé, Grâce et Joseph sont passés par les eaux du baptême. En effet, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Psaume 126, verset 5. Aujourd'hui, la parole du Seigneur pour toi est peut-être celle-ci. Debout, éveille-toi, entonne un chant de guerre. Juges 5, 12. Voilà, c'est une petite pensée du jour qui peut-être fait écho dans votre vie personnelle. Je ne sais pas si vous êtes passé dans une vallée de larmes récemment. Surtout, ne restez pas coincé en panne. Mais vraiment, prenez les armes. Et il y a des combats à mener. Dieu vous appelle à de nouveaux combats. Et il faut répondre présent. Et il sera avec vous comme il est avec nous. Voilà. Amen.
Merci Cathy. Bonjour à chacun. Donc il y a des visages que je connais. Je suis heureux de retrouver, il y a des visages que je ne connais pas, que je suis heureux de découvrir. Donc moi, je vais vous appeler à prendre les armes après avoir versé des larmes. Donc, je sais que les choses n'ont pas été toujours faciles, ça ne l'est pas malheureusement sur cette terre. Mais, comme Cathy nous l'a encouragé, il ne faut pas qu'en pleurant, en fait, on se recentre sur soi, on ressasse les difficultés qu'on a vécues à jamais et qu'on ne se relève jamais, qu'on ne se remet jamais dans une dynamique. Il y a un avenir, il y a un terrain à conquérir. On a pleuré devant Dieu, mais aussi il faut savoir se relever et à nouveau prendre les armes spirituellement pour continuer à faire l'œuvre de Dieu. Et je crois vraiment qu'il y a des combats nouveaux pour cette Église, il y a des territoires nouveaux pour cette Église à conquérir, et que donc Dieu veut pas qu'on regarde en arrière, Dieu veut qu'on regarde en avant, et il veut nous donner courage, et il veut nous rappeler aussi ce pourquoi, les objectifs qu'il a pour nous et pour vous en tant que communauté. Un jour, j'ai lu ce qu'un coach en entreprise disait, et voilà, je veux le citer. Si une entreprise souhaite réussir à long terme, il faut qu'elle détourne son attention d'elle-même et qu'elle concentre son énergie sur sa seule raison d'exister, servir ses clients. Donc ça, c'est un coach en entreprise qui dit, pour réussir, une entreprise ne doit détourner son attention d'elle-même et se focaliser sur sa raison d'exister, qui est de servir ses clients. J'ai trouvé ça très intéressant, et ce mot d'ordre, je pense qu'on peut le transposer à l'Église. Que si une Église souhaite réussir à long terme, il faut qu'elle détourne son attention d'elle-même et qu'elle concentre son énergie sur sa seule raison d'exister, qui est servir ce monde. Alors peut-être on pourrait dire, oui mais est-ce que c'est là vraiment la seule raison d'exister de l'Église, accomplir une mission dans le monde? Est-ce que plutôt la raison d'être de l'Église, c'est pas d'être avec Dieu, d'être avec Jésus? Et je voudrais vous dire que si la raison d'être de l'Église, c'était juste d'être avec Jésus, c'était ça le but, la finalité de l'Église, eh bien, dès que quelqu'un se convertirait, eh bien, il serait emmené au ciel et il serait directement dans la présence de Jésus, celui en qui il a cru, avec qui il a fait la paix. Mais ce n'est pas le cas, pas encore. Pourquoi, alors qu'on est destiné à ça, pourquoi il nous laisse sur la terre? Pourquoi il laisse son peuple sur la terre? Pourquoi il laisse l'Église sur la terre? Eh bien, avant d'être totalement, pleinement dans la présence de Jésus, on reste sur terre parce que la raison d'exister de l'Église sur terre, c'est d'accomplir la mission que Dieu nous a laissée. Et on doit servir nos clients, servir les clients de Dieu. Et quand on réfléchit en fait à pourquoi Jésus, pourquoi est-ce que Jésus est venu, qui était la raison d'être de sa venue, eh bien on a la réponse. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc on voit que la raison d'être de la venue de Jésus, c'était l'amour pour ce monde. L'amour pour ce monde. Et il y a besoin dans ce monde de prendre les armes. On pleure, mais il y a besoin aussi de se lever, prendre les armes pour accomplir la mission. On la connaît tous, cette mission que Jésus a laissée avant de partir dans Matthieu 28, versets 18 à 20, où Jésus s'approcha de ses disciples, de ceux qu'il allait laisser sur la terre, et qu'il leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations, faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé, et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La raison d'être, la raison d'exister de l'Église, elle est ici. Le Seigneur nous a laissés sur cette terre pour qu'on aille auprès des gens de toutes les nations et qu'on fasse des disciples. C'est comme un peu, l'Église, ça peut être un peu comme une entreprise, qu'à un moment, quand une Église se centre sur soi, on commence tous à regarder notre nombril. Quand une Église entre dans ce regard-là, souvent, ça tourne mal. Ça va devenir la guerre des clans, ça va devenir de se chercher les coups, les uns des autres, parce qu'on a nos regards fixés sur l'intérieur. Alors, on examine un tel, on juge. C'est comme on voit dans les reportages animaliers où un singe cherche les poux chez l'autre. Ça va être aussi, en fait, commencer à se focaliser sur les défauts de mon église, les défauts de mon pasteur, les défauts de mes leaders, les défauts de mes paroissiens. Quand une église fixe son attention sur elle, c'est les problématiques internes qui deviennent des montagnes. Et donc, Jésus dit, je pense qu'il y a vraiment une sagesse, que si une église veut réussir à long terme, il faut qu'elle détourne son attention d'elle-même et qu'elle concentre son énergie sur sa raison d'exister, qui est servir ce monde. Et donc, c'est important, vraiment aussi, je le dis aussi à ce corps que Dieu a créé ici à Aubergenville, dans votre communauté, qu'il faut remettre cette raison d'exister au cœur de votre identité. Oui, vous êtes appelés à vous aimer les uns les autres. Oui, vous êtes appelés à prendre soin les uns des autres. Oui, le Seigneur aime son peuple et ses enfants. Mais le Seigneur nous dit que la raison d'être que Dieu a mis à allumer ce chandelier, c'est que cette église, et on doit se souder les uns les autres, on ne doit pas se tirer dans les pattes, cette église a une mission à accomplir, cette mission que Jésus nous a laissée. Alors, c'est ce que j'aimerais ce matin et cet après-midi développer. Tout le monde, je pense, connaît ce verset de Matthieu 28, cet ordre missionnaire, mais j'aimerais le développer et je prie que Dieu puisse vous révéler, vous montrer des choses nouvelles, peut-être que vous n'aviez pas perçues dans ce dernier commandement de Jésus. Alors, dans ce commandement, quand on le lit dans nos traductions en français, on pourrait penser que dans Matthieu 28, 18 à 20, il y a plusieurs commandements de Jésus. Mais en fait, quand on regarde le texte original, le grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, dans ces versets de Matthieu 28, 18 à 20, il y a un seul commandement, un seul verbe à l'impératif. Et ce commandement qu'on trouve, c'est « faites des disciples ». C'est ça que Jésus nous commande. La raison d'exister, ce n'est pas nous-mêmes, nous on va être au ciel pour l'éternité, mais c'est servir nos clients, faites des disciples. C'est ça le commandement qui est dans Matthieu 28, 18 à 20. C'est le seul impératif qu'on trouve dans ce texte. Les trois autres, ce sont des participes. Et donc, Dieu nous dit, voilà, faites des disciples, ça c'est mon ordre. Et après, c'est voici comment vous allez le faire. Voici les étapes pour pouvoir faire des disciples. Alors, la première chose, il dit, faites des disciples en allant. On traduit dans nos traductions, allez. Mais la vraie, littéralement, c'est faites des disciples comment ? D'abord en allant. Dans nos églises, en général, ce qu'on fait, c'est le contraire. On dit aux gens, venez. On fait des tracts, on fait des pubs pour dire aux gens, venez. Mais le Seigneur ne nous a pas dit, non, appelez les gens à venir. Il a dit, vous, allez. Ça veut dire qu'on se retrouve dans l'église pour se fortifier, mais on n'est pas appelé à rester dans nos quatre murs. Une église n'est pas faite pour... La vocation du sel, quand il est dit « vous êtes le sel de la terre », c'est pas on met la salière sur la table et on dit aux aliments « venez dans la salière ». Non. Ça marche pas comme ça. La salière, sa raison d'être, c'est que ce sel doit sortir de sa boîte, doit sortir de son conteneur. Et le sel doit aller, il doit aller. S'il veut accomplir sa vocation, le sel doit aller là où il y a les assiettes, il doit aller là où il y a les aliments. Il doit se déplacer, entrer en contact, et c'est là où il va accomplir sa mission de donner de la saveur. Donc Jésus, si tu veux, si une église veut faire des disciples, il faut qu'elle se mette à sortir. Et si ça fait longtemps qu'elle ne sortait plus, il faut qu'elle se mette à ressortir. Elle a oublié, elle a concentré son énergie sur juste à travailler sur ce qui est intérieur et on a oublié notre raison d'être qui est de toucher ce monde que Dieu a placé autour de nous. Et dans ce commandement, c'est intéressant parce qu'on voit Jésus, il nous l'a donné, mais aussi il nous l'a exemplifié. Enfin, en fait, Jésus a fait ce qu'il nous commande de faire. Il a dit qu'on fait des disciples, et Jésus a fait des disciples. Comment ? D'abord, Jésus a fait des disciples en allant. Quand on lit les évangiles, on voit que, premier, Jésus est allé sur un lieu de réveil, là où il y avait Jean, le prophète, qui baptisait. Et on lit dans Jean 1, versets 35 à 40, que là, en allant, c'est en allant qu'il a trouvé un premier candidat, André, qui va devenir un apôtre. Et André va trouver un autre candidat qui est Simon-Pierre. Ça, c'est pas André et Simon-Pierre, ils ne sont pas venus. C'est Jésus qui est allé et en allant, Dieu les a mis sur sa route et ce sont des gens qui vont devenir disciples du Christ. Ensuite, Jésus est encore allé, il est allé en Galilée, on le lit dans Jean 1, verset 43. Et là, il va, en allant, il va rencontrer Philippe. Et Philippe va parler de cette rencontre avec Nathanaël. Et ça va faire deux nouvelles recrues. Et puis ensuite, Jésus va continuer d'aller. Il allait. Il a marché le long du lac de Galilée. Il a vu des pêcheurs qui travaillaient, Marc 1, 10, verset 19. Et là, il va recruter deux nouvelles personnes, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Et puis, il a continué d'aller. On fait des disciples en allant. Si tu restes sur place, si tu restes chez toi, tu peux prier. Seigneur, convertis la terre. Si tu bouges pas, si tu vas pas, tu rencontreras pas des personnes, tu feras pas des disciples. L'église peut prier pour la croissance. Si l'église ne va pas, elle ne fait pas ce que Jésus a fait. Elle ne pourra pas faire des disciples. On fait des disciples d'abord en allant à la rencontre de ce monde et des gens qui peuplent ce monde. Et on voit Jésus qui se rend au bureau des impôts, Marc 2, verset 13, et là, il rencontre Matthieu, qui va aussi devenir un de ses disciples. On a donc là une leçon, un exemple. Le processus, la raison d'exister de l'Église, qui est de faire des disciples, ce processus commence en allant à la recherche de candidats potentiels. Alors je sais, Jésus le sait aussi, quand tu vas, tu ne vas pas rencontrer que des gens disposés, pas du tout. Mais on va, chercher. Le Seigneur le dit quand il envoie ces gens, il dit, quand vous allez chercher des hommes de paix, quand vous allez chercher des maisons de paix, souvent dans nos églises, on ne comprend pas qu'est-ce que Dieu veut dire vraiment dans Luc 10. Jésus veut dire Luc 10, 6, 7. Il dit, si quand tu vas, si quand, là où tu entres, si un homme de paix habite là, demeure dans cette maison, ne passe pas d'une maison à une autre. Qu'est-ce qu'il veut dire, Jésus ? Pour évangéliser ce monde, il y a besoin d'aller et d'aller trouver des personnes de paix, des maisons de paix. Les personnes de paix, les maisons de paix, ce sont des gens dont le Saint-Esprit a déjà travaillé les cœurs. Et quand tu frappes à leur porte, ces gens sont prêts à t'accueillir en tant que messager, mais aussi sont prêts à accueillir ton message. Et parfois, nous, on frappe aux portes à des gens qui ne sont pas des personnes de paix, à des maisons qui ne sont pas des maisons de paix. Il n'y a pas un travail qui a été fait et ces gens ne sont pas disposés à recevoir. Et le Seigneur dit, quand on n'est pas prêt à te recevoir, passe, ne t'attarde pas, ne gaspille pas ton temps à essayer d'ouvrir une porte qui est fermée. Cherche les maisons de paix. Cherche les personnes de paix. Et donc, Jésus, il a fait ça. Il avait un flair extraordinaire. C'est quand il allait, il cherchait des gens. Il cherchait des candidats au discipulat. Et Jésus, dans sa recherche, en fait, il ne cherchait pas des personnes brillantes, qui avaient des bons postes dans la société, qui pourraient s'avérer précieux d'avoir dans son équipe. Ce qu'il cherchait, c'était des gens qui avaient un fort potentiel d'enseignabilité. Des gens enseignables. Une des choses qui manque, c'est qu'on a affaire à des gens qui pensent qu'ils savent tout. Ils savent mieux que vous. Et quand tu as des gens qui ne sont pas enseignables, tu ne vas rien pouvoir faire. Ils ne vont rien recevoir de toi. Et c'est très difficile de faire des disciples avec des gens, monsieur ou madame, je sais tout. Je suis au-dessus de toi. En tant que pasteur, j'ai rencontré des gens, quand ils parlent avec toi, c'est comme si, ils veulent t'enseigner. Je pense en tant que pasteur, on doit être humble, on a plein de choses à apprendre. Mais quand je les écoute, j'ai dit, je suis désolé, je sais qu'il y a tellement de choses que je pourrais t'apporter, mais tu n'es pas écoutant, tu n'écoutes pas. Tu n'as pas une oreille pour être instruite, tu n'as pas un cœur pour recevoir, avec un cœur bien disposé, tout ce que je pourrais t'apporter. Et souvent, quand on est avec des personnes comme ça, on peut gaspiller des heures et des heures à essayer de les instruire, ils ne sont pas enseignables. Alors Jésus, lui, ne perdait pas son temps. Il savait qu'il devait faire des disciples et il cherchait des hommes de paix, il cherchait des maisons de paix, des gens qui étaient enseignables. Et on a vu que il a recruté, repéré et il a commencé à prendre ces gens avec lui, Donc votre raison d'exister. C'est faite de toutes les nations des disciples. Et je suis heureux de voir qu'il y a des nations de Colombie, je ne sais pas quelle nation là. Est-ce qu'on peut savoir qui peut dire sa nation d'origine? Donc il y a des Français, j'imagine, ok. Il y a de Colombie, Bénin, Espagne. Est-ce qu'il y a des gens d'Espagne? Côte d'Ivoire, Angleterre. Haïti, il y a la Corée, qui est encore un autre pays qui n'a pas été cité, Cambodge, Martinique, gloire à Dieu. On voit que même une petite communauté a la capacité de faire des disciples aujourd'hui du monde entier parce qu'il y a un brassage. Il y a un brassage, le monde avec les avions, avec, le monde est devenu un monde où... Et il y a la possibilité, à vos portes, il y a toutes les nations qui sont présentes, beaucoup de nations sont présentes. Et la raison d'exister, c'est Dieu vous dit, faites des disciples. Et pour faire des disciples, il faut d'abord aller. Et d'aller et chercher les hommes de paix, les maisons de paix. Et le Seigneur dit, quand tu as trouvé une maison de paix, passe pas à une autre. Là, tu as une personne bien disposée, concentre-toi pour accomplir, faire d'elle un disciple. Parce que aller et trouver une personne ouverte, une maison ouverte, c'est juste le début. Mais dans le commandement de Jésus, il a dit, faites des disciples d'abord en allant. Deuxièmement, il dit, faites des disciples en baptisant. C'est-à-dire, quand tu as trouvé une maison de paix, quand tu as trouvé une personne de paix, il faut l'inviter à un moment, une fois qu'il a compris le message, une fois qu'il a compris ce que tu venais lui dire, il faut l'inviter à prendre une décision, l'inviter à un engagement. Et on voit Jésus, il le fait aussi. Dans le processus, comment il a fait des disciples, il a suivi ses étapes. Marc 1, 17, André et Simon, après les avoir trouvés en allant, il va à un moment leur dire « Suivez-moi ». C'est-à-dire, maintenant, vous avez un choix, vous connaissez la vérité. Maintenant, tu peux rester dans la vie que tu avais ou moi, je te propose une nouvelle vie. Suis-moi, je vais devenir ton Seigneur. Il va rencontrer Philippe, Jean 1, 43. Il va expliquer à Philippe et il va lui dire, suis-moi. On le voit après avec Jacques et Jean, les fils de Zébédée, pareil. Le Seigneur va leur dire, suivez-moi. À Matthieu, Marc 2, 14, il va dire à Matthieu, suis-moi. C'est-à-dire à un moment, le Seigneur, quand il rencontre une personne de paix, bien disposée, il lui dit ce qu'il a à dire, et après il lui dit, maintenant, tu dois te décider, tu dois prendre une décision, suis-moi. Et quand nous, on veut faire des disciples, on doit aller. Et dans notre processus d'aller, à un moment, on doit inviter les gens à prendre une décision, un engagement. Et cet engagement dans le christianisme, l'engagement visible devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, c'est l'engagement que quelqu'un va prendre dans le baptême. Quelqu'un va s'engager à mourir à ce qu'était sa vie ancienne pour renaître à une vie nouvelle qui est avec comme mission, objectif, suivre Jésus. Dans 1 Pierre 3, 21, il est dit, le baptême consiste à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Donc la deuxième étape dans la mission de l'Église, c'est amener les gens à prendre une décision, amener les gens à prendre un engagement. Et puis le Seigneur dit, faites des disciples, un en allant, deux, faites des disciples en baptisant ceux qui ont accueilli le message et qui sont prêts à se décider. Et trois, il est dit, faites des disciples en les enseignant. Et là, il y a aussi dans ce troisième participe est souvent mal compris. Et je pense qu'il est mal pratiqué. Parce que souvent, ce qu'on retient, c'est, OK, quand quelqu'un baptise, il faut l'enseigner. Et donc, on pense que pour faire des disciples, il faut juste transmettre un savoir. Il faut que la personne qui s'est convertie, on lui transmette une connaissance. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, voilà ce qu'il a dit de faire, enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Tu peux enseigner à tes enfants, et il faut faire ceci, il faut faire cela. Il sait dans sa tête, et il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il a la connaissance, mais il n'a pas l'obéissance qui est conséquente à son obéissance. C'est pareil. Plein de gens dans les églises savent. Ils ont entendu des sermons, ils ont entendu des bouquins, ils ont lu. Ils savent. Et on pense parce qu'ils savent, on a fait deux disciples. Non. Un disciple, c'est, il est dit, enseignez-leur à pratiquer. Enseignez-leur à obéir, à mettre en pratique les enseignements de Jésus. Ça, c'est un drôle de boulot. Parce que, je vais vous dire, amener quelqu'un qui était rebelle, qui servait son ego, qui était dans le royaume de Satan, et puis l'amener à l'obéissance de la foi, l'amener que cette personne, sa vie, va être une mise en pratique des enseignements de Jésus. Enseigner des principes, c'est une chose. Veiller à ce que ces personnes arrivent au point où ils les mettent en pratique, c'est acquis dans sa vie. Ça, c'est tout un travail d'éducation. C'est comme ceux qui sont parents, il y a des gens qui sont parents ici. Hein? Pour apprendre un enfant à l'obéissance qui est nécessaire dans la vie, ça prend des années de suivi, de proximité. On veille à ce que nos enfants, voilà, en priant qu'à un moment, on n'a plus besoin de répéter, ils l'ont intégré, c'est une valeur dans leur vie, quelque chose qu'ils mettent en pratique. Alors, peut-être, vous pouvez peut-être penser que ce commandement de Jésus de faire des disciples, en fait, c'est les pros qui sont appelés à faire ça. Il y a vraiment quelque chose dans l'Église, le fait qu'on comprend mal en fait pourquoi Dieu donne des ministères, Dieu donne des pasteurs. Les gens disent, on a un pasteur, bon, on le paye, je pense que ce n'est pas le cas ici dans cette Église, mais dans les Églises, on le paye, il doit faire le boulot pour nous. C'est-à-dire le pasteur, c'est un professionnel. Que nous, on vient s'asseoir, on donne nos dîmes, on donne nos offrandes, et lui, il fait le travail, il fait des disciples. Mais je vais vous dire, là, tu es en train de te défiler, si tu penses les choses comme ça. Et ce n'est pas juste. Quand il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », c'est un commandement, c'est une mission, c'est la raison d'être de toute Église et de tout croyant né de nouveau. Tu ne peux pas refiler ça à ton pasteur. Tu ne peux pas te refiler ça à ton comité d'évangélisation. Dieu t'appelle à toi à faire des disciples. Et beaucoup de gens disent, ah oui, mais pasteur, moi je suis pas, c'est pas à ma portée, je ne suis pas compétent, je ne peux pas le faire. Et je vais vous dire, ce sont des excuses, mais tu peux le faire. C'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut aller. Tout le monde peut aller. Le pasteur m'a dit, t'as pas besoin de prendre un billet d'avion pour aller en Afrique. L'Afrique, elle est ici. T'as pas besoin d'aller en... La Colombie est ici. Il y a des gens, toutes les nations, ils sont tout près de chez toi. T'as juste besoin de te dire, faut que je sorte de ma salière, il faut que j'aille. Dieu conduit mes pas. Et peut-être tu vas aller dans des maisons et puis tu vas te faire rabrouer d'autres. Et puis tu vas tomber un jour sur une maison de paix. Sur une personne de paix. Ça y est, en allant, tu as fait comme Jésus, tu as rencontré quelqu'un au cœur bien disposé. Eh bien, donc, tu ne passes pas à une autre. Tu vas t'investir pour que cette personne comprenne vraiment le message de Jésus et tu vas l'inviter à prendre une décision, à s'engager dans le baptême. Et si tu es arrivé là, si tu es arrivé à amener quelqu'un au baptême, souvent, ce qu'on va faire, c'est que les gens vont dire « Ok, j'ai fait l'étape 1, je suis allé, j'ai fait l'étape 2, j'ai amené la personne au baptême. Et maintenant, on amène au pasteur le nouveau bébé et on dit, pasteur, maintenant, à toi, bon courage. Et le pasteur, il se retrouve avec plein de bébés, plein des bébés spirituels, c'est la nurserie. Et lui, il court pour changer les couches à droite, à gauche, donner le biberon. Parce que les gens refilent le bébé. Ils ont fait 2 étapes et après ils refilent le bébé au pasteur. Eh bien, je vais vous dire non. C'est à toi de faire des disciples. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Quand tu es allé, quand quelqu'un est baptisé, tu n'as pas fait de lui un disciple. Tu auras fait un disciple quand tu auras amené cette personne à obéir. C'est ton boulot, c'est ton travail de parent spirituel de veiller à ce que l'enfant que Dieu a fait naître par l'intermédiaire de ton témoignage, cet enfant aligne sa vie sur la parole de Dieu. Alors là, quand on dit, oui, mais enseigner, mais moi, je n'ai pas fait d'école biblique, je ne connais pas, je lis la Bible, mais je ne suis pas capable d'enseigner pour faire un disciple. Mais je vais vous dire qu'on est tous capables. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Jésus a dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Vous savez, il y a quelqu'un qui a compté. C'est une personne qui a fait, un savant israélite. Il a compté, je crois qu'il y a plus de, on trouve à peu près 349, je crois, commandements. Quand on combine les quatre évangiles, donc 335. Il y a 335 commandements dans la bouche de Jésus. C'est la compilation faite par Galen Koura, tirée des 4 évangiles combinés ensemble, en n'ajoutant rien et en enlevant rien. Mais quand vous regardez ces 335 commandements, on distingue parmi eux des commandements circonstanciels qui correspondent à des situations spécifiques contemporaines de Jésus, comme par exemple, Jésus va dire « Allez nous préparer le repas de la Pâque ». Ou Matthieu 26, ou détachez l'ânesse et son petit, amenez-les-moi. Ou faites-les asseoir par rangée de 50. Ça, c'est des commandements de Jésus pour l'époque, pour la circonstance donnée. Cela, on n'a pas à les transmettre et à soumettre ça aux nouvelles personnes. Mais on trouve dans la bouche de Jésus environ 50 commandements. Ça se résume 50 commandements généraux applicable par tous les gens, de toutes les cultures, toutes les langues, tous les pays et de tous les temps. 50 commandements. Le défi, ce que le Seigneur ne dit pas, apprenez-leur à leur soumettre à toute la loi de Moïse, tous les livres du Pentateuque, non. Enseignez-leur à observer ce que moi je vous ai prescrit. Alors peut-être tu ne laissais pas ces 50 commandements, Mais c'est facile. Si tu veux faire un disciple, qu'est-ce que tu fais ? Une fois que tu as trouvé une personne de paix, une fois que cette personne est devenue a été baptisée, au lieu de le refiler au pasteur, c'est toi qui vas changer les couches et c'est toi qui vas donner le biberon. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu peux proposer à cette personne, on va lire l'évangile ensemble. On va lire par exemple l'évangile de Marc ensemble. Et puis vous lisez, et puis quand vous lisez un premier chapitre, vous vous arrêtez et vous dites, est-ce qu'il y a une chose que Jésus a commandée dans ce chapitre qui s'applique à nous ? Et puis là, la personne, elle peut lire, c'est facile de dire, oui, Jésus nous a commandé, par exemple, de pardonner à nos ennemis. Là, tu as trouvé un commandement de Jésus, tu dis, maintenant il le sait, on passe au suivant. Non. Tu n'as pas fait un disciple en passant au suivant. Il est enseignez-leur à observer, à pratiquer ce que je vous ai commandé. C'est-à-dire là, tu vas t'arrêter et tu vas dire à la personne qu'est-ce qu'il en est du pardon dans ta vie. Est-ce que ce commandement-là, moi, mon boulot, c'est de t'apprendre à obéir. Et peut-être les gens vont dire, mais c'est trop dur, il m'a fait trop de sales coups, je ne peux pas. Eh bien, tu vas prier, je sais que c'est dur. Le Seigneur va t'aider. Et tu pries jusqu'à ce que cette personne entre dans l'obéissance de la foi. C'est ça un disciple. Ce n'est pas quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui vit l'enseignement du Seigneur. Et puis après, tu passes à un autre. Et quand tu arrives et que, à la fin de l'évangile et que tu vois que cette personne, même s'il peut y avoir des rechutes, même s'il peut y avoir sur certains commandements des points plus difficiles, que cette personne a compris, que maintenant il met en pratique, là, tu as fait un disciple de Jésus. On fait des disciples en allant, en baptisant et en enseignant aux gens tout ce que le Seigneur nous a enseigné. Et maintenant, je vais dire une chose, c'est par rapport à nos stratégies d'église. Je reparlerai cet après-midi, mais souvent, la stratégie de Jésus qui paraissait complètement folle, mais complètement folle, les gens ne l'ont pas compris. Et Jésus, tu veux bâtir un royaume. Jésus, c'est le roi. Il est venu bâtir un royaume. Jésus, il avait en vue l'église, mais c'est un truc de dingue, l'église universelle. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il a des bons contacts, il a des personnes de paix. Et après, on le relira cet après-midi. Il a un certain nombre de candidats potentiels. Je ne sais pas combien ils étaient, un certain nombre. Il les réunit. Et puis, il va sur la montagne et il passe toute la nuit à prier. Et puis, qu'est-ce qu'il a prié au Père ? Il dit, Seigneur, tu vois, peut-être ils sont 50, 60. C'est trop nombreux. Je ne peux pas m'investir pour vraiment faire des disciples avec 50, 60. Je ne peux pas être parent de 60 enfants. Ce n'est pas possible. Et il va prier, Seigneur, montre-moi avec qui je dois m'investir. Montre-moi à qui je vais en fait transmettre de manière particulière ma vie. Et là, Dieu va lui en révéler 12. Et il descend de la montagne et il est dit, il fait un choix et il en appelle 12 pour être avec lui. 12 avec lui. Et quand tu lis l'évangile, tu vois que Jésus, la majorité de son temps, il a passé avec les 12. 12 gars. Juste 12 gars. Et les gens disaient, mais Jésus, si tu veux faire un royaume, deviens une star, rassemble les stades, fais les foules. Il y avait ça aussi dans son ministère. Mais lui, jamais on pouvait le détourner. 12 gars. 12 gars avec qui il mangeait, avec qui il pleurait, avec qui il marchait, avec qui il montrait. 12 personnes. Et dire, mais Jésus, tu ne vas pas aller loin avec 12 gars. Et Jésus savait que pour changer le monde, il faut changer en profondeur des gens. Et pour changer en profondeur des gens, il ne faut pas juste les convertir en surface. Il faut les amener à une obéissance profonde, à comprendre profonde. Ça prend du temps, c'est patient. Jésus, des fois, il en avait ras-le-bol de ses apôtres. Il avait du fil à retordre, mais il a persévéré. Ces 12 sont devenus les piliers, les colonnes d'un édifice gigantesque. Et nous, souvent, en fait, dans l'Église, il y a eu la tentation de faire rentrer les foules. Les foules rentraient par le baptême. Un roi se convertissait, tous ses sujets étaient baptisés, rentraient dans le christianisme. On a eu un christianisme de masse. Alors les gens venaient, les gens étaient baptisés, mais combien parmi tous ceux qui allaient à l'église, combien de gens parmi tous ceux qui vont à l'église, combien de gens on leur a appris à obéir à tout ce que Jésus a commandé? Combien de gens dans nos églises sont-ils de vrais disciples de Jésus? Et vous savez, Jésus, pourquoi il en a pris 12? Parce que amener les gens à l'obéissance, ça prend du temps. Les gens ont besoin de voir des modèles. Les gens ont besoin de voir comment Jésus pratiquait les choses. Et en fait, si on veut faire des disciples, on ne peut pas faire des disciples de milliers de personnes à la fois. C'est pour ça que pour les pasteurs, ce n'est pas possible de faire des disciples de 60 paroissiens. Ce n'est pas possible. Parce que ça demande une proximité, un suivi. Veiller à que quelqu'un obéisse, ça prend du temps. Ça veut dire suivre, demander, dire comment ça va, que les gens rendent des comptes. C'est pour ça que c'est le boulot des chrétiens, d'être des parents spirituels. Après, tes enfants, peut-être, quand tu les as élevés, tu vas les amener à l'instituteur ou au professeur qui sait plus que le papa ou la maman, d'accord. Mais le boulot d'éduquer des enfants, c'est le boulot des parents. Et un pasteur, un prophète, un enseignant va apporter des choses. Peut-être aux nouveaux disciples qu'on ne peut pas, mais le travail de faire des disciples, c'est ton travail, c'est ta mission, c'est la raison d'être de cette église. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez, enseignez-leur. C'est la raison d'exister. Ma prière, on pourra en rediscuter aussi cet après-midi, échanger, poser des questions, mais ma prière, c'est que Dieu sèche les larmes, que Dieu guérisse les cœurs brisés, que Dieu bénisse toute personne, quelle que soit l'orientation, le choix qu'elle a fait. Mais ne restez pas dans la vallée des larmes. Ne choisissez pas de l'apitoiement sur soi. Ne choisissez pas de « jusqu'à quand tu vas pleurer ? Relève-toi, prends les armes. » Il y a une mission qui t'attend. Et peut-être même, des fois, on le voit dans l'armée de Gédéon, dans le combat de Gédéon, Dieu va diminuer les troupes. Mais pour gagner des batailles, il faut être unis. Une famille qui est divisée contre elle-même, elle ne peut pas avoir un grand impact. Et je prie vraiment que le Seigneur, dans sa grâce, vous accorde que dans les mois, dans les années viennent, de nouveaux disciples de Jésus s'assieront sur ces chaises. Mais pour qu'il y arrive, ne compte pas, ne refile pas tout le travail au nouveau pasteur et à son coach, son mentor. Non, il ne va pas pouvoir le faire. Décide que faire des disciples, c'est ton boulot. Faire des disciples, c'est ta mission, c'est ta raison d'exister. Je ne sais pas, mais c'est comme si ce que je vous partage là, c'est comme quelque chose qui m'a travaillé ces derniers temps. Et je me dis, est-ce que tu as déjà eu la joie de faire un disciple dans ta vie? Même un. Le défi que j'aimerais vous adresser, je sais que peut-être quelques-uns le prendront, d'autres le laisseront, mais un défi devant Dieu. Si Dieu t'appelle, il est dit que Dieu donne ce qu'il ordonne. Si Dieu t'appelle à le faire, il te rendra capable de le faire. Alors peut-être ne vise pas trop, peut-être ne vise pas 12. Commence par prier pour un. Seigneur, avec ton aide, j'aimerais faire un disciple. Vous savez, un chrétien adulte, la différence entre un enfant et un adulte, un enfant ne peut pas se reproduire. Après, il y a la puberté où il est capable. Et après, l'âge adulte, tu es capable d'enfanter d'autres enfants. Un chrétien adulte, vraiment adulte, est quelqu'un qui est capable d'avoir des enfants spirituels. Vous savez, les 12, c'est l'évangile, on le relira cet après-midi. Jésus appelait mes enfants. Les 12, c'était ses enfants. Il avait beaucoup de gens, mais ça, c'était ses enfants. Ceux avec qui il avait passé du temps. et que maintenant il pouvait partir au ciel. Il savait que ce qu'il avait investi, ça resterait gravé à jamais et qu'ils allaient devenir les futurs leaders de l'Église. Où sont tes enfants spirituels? Si tu es toujours été dans le stade d'enfant spirituel, peut-être tu vas toujours être en train d'exiger « Papa, maman, je veux un câlin, papa, maman, pourquoi tu ne m'as pas appelé, papa, maman ?» Et des fois, le Seigneur est dit aux chrétiens « Je voudrais que tu quittes tes couches culottes et que tu deviennes adulte. » Ça suffit. Toujours centré sur ton ego, toujours voir « ce qu'on en a fait assez pour toi, pas assez. » Ça, c'est les enfants, c'est enfantile. On doit devenir adulte. Adulte, c'est quels que soient les manques que j'ai eus, quelles que soient les carences que mes parents, même spirituels, ont eues, je suis appelé par Dieu. Je suis appelé. La raison d'exister, pourquoi il ne m'a pas pris au ciel encore, c'est que je dois participer à la mission qu'il a donnée, faire des disciples. Et pour ça, il faut que tu décides. Je vais sortir de mes quatre murs et je vais aller. Je vais aller dans un esprit d'ouverture, rencontrer des personnes de paix. La deuxième chose, je vais, quand j'aurai une maison de paix, je vais pas me oublier. Je vais m'investir, je vais revenir puisque je suis bienvenu pour amener les gens à une décision au baptême. Et puis après, tu vas suivre. C'est toi qui vas suivre cette personne, qui va lire l'évangile avec cette personne et qui va repérer avec cette personne. Voilà ce que Jésus a commandé. On va s'encourager à le vivre. Voilà comment moi je le vis. Voilà comment tu peux le vivre. Et que si tu n'y arrives pas, la semaine prochaine, tant pis. Non, ne te décourage pas. Tu vas y arriver. Et là, vous êtes en train de former des disciples. Vous aurez peut-être des déceptions. Jésus en a eu. Il pourrait vous arriver d'avoir un disciple qui vous trahit. Jésus en a eu un. Mais c'est le travail que Dieu nous demande de faire. Dieu ne cherche pas les foules. Une église, Dieu, je sais que tous les pasteurs, on rêve tous. J'ai été tant de pastorales. Dans les pastorales, la première chose que les pasteurs, vous savez, ils se demandent entre eux, combien tu as de gens dans ton église? Première question. Si tu dis t'en as 20, tu vois qu'ils baissent la tête et puis ils passent au suivant comme t'es pas intéressant. T'es pas quelqu'un d'intéressant. Ce que le Seigneur a demandé, il n'a pas dit remplissez des chaises, faites des disciples. Ce qui est important parmi peut-être les 20, les 30, combien tu as de disciples? C'est dans une petite église, tu peux avoir peut-être 30 personnes et tu as 20 disciples. Et dans une église, tu peux avoir 1000 personnes et tu comptes les vrais disciples sur les poignées d'une main. La raison d'exister. Que Dieu vous accorde. Je prie, je sais que ça n'a pas été facile et je prie que le message que Cathy vous a donné après les larmes, prendre les armes, je prie vraiment que Dieu vous donne ce courage. Je prie que Dieu vous donne de rebondir, que Dieu vous accorde de vous serrer les coudes pour à nouveau être une église qui va concentrer son énergie sur sa mission. Celle que le Seigneur nous a laissée, qui est notre raison d'exister. Seigneur, vraiment, on te remet tout ce qui a été partagé ce matin, qui vient bousculer, qui vient interpeller. Mais Seigneur, je prie pour cette église. Nous prions ensemble, Seigneur, qu'après la vallée des larmes, vienne, Seigneur, le moment de prendre les armes. Je veux prier, Seigneur, que tu amènes cette église dans les combats que tu as préparé pour eux, mais que tu leur accordes, tu les amènes aussi dans la victoire, Seigneur. Et cette victoire, ça ne sera pas le fait juste d'une équipe, le juste de couples pastoraux. Cette victoire, ça sera la victoire d'équipe ensemble, Seigneur. Où on arrête, Seigneur, de regarder les uns les autres et on se tourne ensemble vers l'extérieur et on s'entraide ensemble dans la mission que tu nous as accordée. Seigneur, nous prions pour toutes les nations qui sont présentes autour de cette église. Nous prions, Seigneur, pour que tu révèles aussi des stratégies particulières. Tu révèles à chacun, Seigneur, où il doit aller parce que tu veux nous diriger vers des maisons de paix. Je prie ce matin. Je crois, Seigneur, qu'autour d'ici, il y a des maisons de paix. Je crois que le Saint-Esprit, même si on est dans un pays endurci, je crois que le Saint-Esprit a préparé des cœurs, Seigneur, qui sont des maisons de paix, des personnes de paix. Je prie, Seigneur, que tu conduises les pas, comme tu as conduit Jésus quand il allait vers de telles personnes comme André, Simon, Nathanaël, Seigneur, Matthieu. Je prie au nom de Jésus que tu diriges les pas, Seigneur, des frères et des sœurs vers des personnes de paix. Papa, qui vont recevoir, qui vont s'engager et qui vont apprendre à obéir au Maître. Seigneur, nous t'aimons, nous nous prosternons devant toi. Aide-nous à te ressembler, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.